Jet. Nancy 94.2. Bonjour et bienvenue à Europe & Roll. Aujourd'hui c'est le jour de l'Europe, c'est la fête, mais nous on ne fait pas dans le nombrilisme, on va regarder l'Europe de l'extérieur avec des interviews et notamment notre invité aujourd'hui, monsieur Lindecker, professeur d'anglais et chanteur d'opéra, et je salue aussi Amélie qui sera avec nous pendant toute cette émission. Écoutez d'abord les infos présentées par Margot.
Bonne fête l'Europe. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe, une date symbolique qui marque les 57 ans de la déclaration Schuman. Ce texte a été adopté le 9 mai 1950 sous l'autorité du ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Robert Schuman. Le plan Schuman prévoyait la gestion commune du charbon et de l'acier par les Français et les Allemands. Le but avoué était la pacification de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. La proposition de Schuman déboucha en 1951 sur la création de la CECA avec la participation de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. La déclaration Schuman est commémorée par la Fête de l'Europe depuis 1985. Pas de salaire minimum outre-Rhin. La chancelière allemande conservatrice Angela Merkel a redit hier son opposition à un salaire minimum légal et unifié à l'issue d'une rencontre avec la Confédération des syndicats allemands. En effet, il n'existe pas d'équivalent du SMIC en Allemagne. Ce sont des conventions collectives qui fixent des salaires minimums par branche. Mais ces salaires sont très variables d'une profession à l'autre. Selon les observateurs, le conflit à propos du salaire minimum menace de faire éclater la coalition entre les sociodémocrates et les conservateurs actuellement au pouvoir en Allemagne. De nouvelles négociations auront lieu le 14 mai. Bronislav Geremek, toujours menacé de perdre son mandat de député européen. On vous en avait parlé dans Europe & Roll il y a quelques semaines. Le dossier du député européen polonais Bronislav Geremek a été transmis lundi au président de la Diète, le parlement de son pays. Bronislav Geremek refuse de remplir à nouveau une déclaration certifiant qu'il n'a pas collaboré avec la police secrète à l'époque communiste. L'ancien ministre des Affaires étrangères et conseiller du syndicat Solidarnosc fait pourtant figure de symbole de la transition de la Pologne vers la démocratie après la chute du mur de Berlin. Le président du Parlement de Varsovie a signalé aujourd'hui qu'il attendrait la décision de la Cour constitutionnelle polonaise. Cette Cour examinera à partir de vendredi si la loi à laquelle Bronislav Geremek refuse de se soumettre est conforme à la Constitution. Le projet Galileo dans l'impasse. Les difficultés ne semblent pas s'aplanir pour Galileo. Ce programme, initié sous l'autorité du commissaire français au transport Jacques Barrot, vise à construire d'ici à 2012 un système d'une trentaine de satellites européens permettant de concurrencer le GPS des États-Unis. 8 entreprises partenaires européennes devaient se mettre d'accord d'ici à demain sur un partage du financement pour ce projet. L'aboutissement à une solution semble cependant improbable. Les entreprises redoutent de ne pas connaître la rentabilité de cet investissement. La Commission a déjà annoncé que sans accord, le financement de Galileo serait en grande partie public.
Pas de promesses creuses à Europe & Roll, nous restons fidèles à notre ambition internationale avec le prochain groupe. Ce sont des Australiens qui ont repris une chanson américaine Hotel California et qui l'ont traduite en français.
De désert, il y avait du vent dans mes cheveux, le son des colitas s'est levé comme l'enfer, et puis loin devant moi, j'ai vu une lumière tout petite, ma tête devient lourde, mes yeux se sont foncés, il fallait m'arrêter pour la nuit, elle était là devant la porte. L'heure s'est sonnée tout précis. Et je me pensais pourrait être l'enfer ou le paradis. Puis est frappé du feu à bougie et l'intérieur s'est illuminé. J'ai entendu des voix dans la nuit. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait: bienvenue à l'hôtel de Californie. C'est tellement belle, ouais. C'est tellement belle. Il y a plein de chambres à l'hôtel de Californie. N'importe quand, tu m'y trouveras certainement. Y a des miroirs sous le plafond et la champagne rosée. Elle a dit, on est tous que des prisonniers. Qu'est-ce qu'on a fait dans les chambres du maître? Ils se sont congrégués pour la fête. Ils attaquent avec des blades de fer, mais ils peuvent pas tuer la bête. Je souviens une chose encore, je me suis cassé par la porte. Il me fallait trouver la route qui se finit d'or. Mais calme-toi, il est sécurité, nous sommes programmés pour dire bonjour. Allez, vous pouvez dire au revoir quand vous voulez, mais vous n'allez pas dire jamais. Bienvenue à l'hôtel de Californie. Ouais, c'est tellement belle. C'est tellement belle. Oui, oui. Il y a plein de chambres à l'hôtel de Californie. N'importe quand, on m'y trouve.
C'était Cats Empire de l'Australie avec la version française de Hotel California. Vu que même ce jour de l'Europe, on ne sait pas trop ce qu'on fait vraiment, un regard d'ailleurs pourrait peut-être aider et c'est Steffi qui a recueilli trois perspectives cubaines, algériennes et indonésiennes.
Bonjour Stéphanie, tu es franco-indonésienne. Tu es arrivée ici en France quand ?
J'ai habité toute ma vie en Indonésie seulement depuis mes études, après le bac, donc il y a 12 ans.
Et avant de venir ici, tu imaginais la vie en Europe comment ?
Moi, j'imaginais rien de spécial parce que j'y allais tous les étés, c'est ma culture aussi. Ce que je redoutais tout bêtement, c'était juste le temps. Parce que ici à Nancy, tous les gens que j'avais croisés m'avaient dit qu'il ferait super froid et j'aime pas le froid. Et donc, c'est la seule chose qui me terrorisait d'avance. Après coup, j'ai remarqué que c'était le quotidien qui changeait énormément. Il y a quand même plus de générosité en général, là-bas, qu'ici. C'est pas recherché, des choses comme ça, mais il y avait une intention qui était adorable, quoi, qui était très généreuse de leur part. Même les gens dans la rue, tout de suite, ils viennent. Alors qu'ici, bon, il y a beaucoup plus de normes sociales ou de règles qu'il faut respecter. Ici, c'est un peu plus chacun pour soi.
Bonjour, ça fait 6 mois que vous habitez ici en France et avant vous avez vécu en Algérie. C'est quoi cette mentalité de l'Europe?
La mentalité là, ça diffère en fonction de la religion, de la culture et la façon dont ça diffère énormément parce que là, on a tendance un petit peu à voir les gens plutôt individualistes. On sent une sorte de froideur. Peut-être les Arabes d'une manière générale, on a tendance à être centré. Aider entre nous, on vit en société proprement dit. Si je reste ici avec mes enfants, je pense que j'ai tendance à perdre beaucoup de qualités, héritage propre arabe. Voilà. Donc généralement, on fait beaucoup de choses pour arriver au minimum ici en Europe. L'Europe, c'est un pays qui est développé. Et tout ce que je souhaite, c'est rattraper de ce retard.
Je m'appelle Jorge Luis Rodriguez.
Tu viens de quel pays?
Je viens de Cuba.
Et ça fait combien de temps que tu es en Europe?
Ça fait déjà 8 ans. Je me souviens quand je suis arrivé, la première chose qui m'avait choqué, c'était voir un plein rayon au supermarché pour la nourriture des animaux. Et après, je me dis, bon, c'est vrai que dans les pays de tiers-monde, des fois, c'est dur l'alimentation pour les personnes. Il y avait comme un décalage entre la vie ici et la vie dans mon continent.
En quoi la mentalité européenne, s'il y en a une, change par rapport à la mentalité en Amérique latine?
Je pense qu'il y a dans l'Amérique latine, et je pense aussi dans les pays d'Afrique, dans les pays de l'Asie, les gens sont obligés à être un peu plus solidaires avec les autres parce que on n'a pas beaucoup de choses. Ici, à force d'avoir beaucoup de choses aussi, les gens ils deviennent plus individualistes quand même. Chacun a son appartement, chacun a son métier. En Amérique latine, on est obligé de demander tout le temps aux voisins.
Pour connaître encore une autre perspective, je passe la parole maintenant à Amélie et Monsieur Lindecker.
Donc, bonjour Monsieur Lindecker. Vous êtes américain, plus précisément texan, mais vous avez la particularité d'avoir fait un échange scolaire en Suède, d'avoir fait une partie de vos études en République tchèque et en France, où vous vivez depuis 22 ans et où vous travaillez en tant que professeur d'anglais et de coordinateur des langues à Sciences Po. Et en plus, vous êtes chanteur d'opéra. Alors, d'où cet intérêt pour l'Europe?
Ben, tout cet intérêt, en fait, c'est personnel et aussi un petit peu le hasard. Le personnel, ce sont mes origines, en fait, de chaque côté de mes parents, qui est de l'Alsace-Lorraine, dans les années 1840, qui ont immigré aux États-Unis. Donc, j'étais toujours un petit peu intéressé par cette région. Mais aussi le hasard, parce que j'avais le goût d'aventure, des langues, des cultures. Donc, j'ai pu, grâce à mon lycée, aller en Suède en 1973. Ça donne une petite idée de mon âge, quand j'étais en premier aux États-Unis. Et puis, par la suite, d'autres occasions pour passer en Europe, vivre un peu la vie européenne.
Et est-ce que vous êtes du même avis que les trois personnes que nous avons interviewées, que les Européens sont un peu froids, voire individualistes?
Ben, il y a c'est-à-dire, je pense qu'il y a en Europe une franchise dans le parler, c'est vrai. Et aux États-Unis, il y a un autre mode de communication qui peut sembler plus chaleureux. Mais je me suis habitué à cette façon de communiquer. J'aime beaucoup la franchise dans son discours qu'on a en Europe. Aux États-Unis, on a un petit peu une idée c'est peut-être négatif, vivre pour le travail. Et c'est vrai, en Europe, on a cette idée de travailler pour vivre. Et ça reste un petit peu américain. Je suis dans le vivre pour le travail, je travaille énormément, mais j'apprécie l'attitude de beaucoup d'Européens. Par rapport à ce qui était dit, je pense que la générosité qui était dit par l'Indonésien, on trouve aux États-Unis aussi. Je pense que l'Algérienne parlait de s'entraider. On peut voir ça aussi dans beaucoup de communautés, des villes, des villages, des régions aux États-Unis. Une idée de s'entraider, mais au niveau des associations, des églises et aussi de l'État, mais moindre peut-être. D'accord.
On continue avec un peu de musique et je vais Amélie laisser introduire ce prochain groupe parce que c'est elle qui nous a convaincu de la passer.
Donc c'est un ami à moi qui joue tous les instruments lui-même, qui fait les différentes voix. Donc voilà, il enregistre tout et moi j'adore. Donc c'est Polo.
C'est Polo avec Dream On.
In search of something I will never find. Shall I run, shall I rest, do I waste my time? Should I stay, should I go, should I run with you? Close your eyes and learn to fly. I'm lost in that world, somewhere above the sky. Follow the light, it keeps you safe and warm. Don't smash the silence. Just dream on and on and on. Don't need no violence. Just dream on and on and on. If I'm searching for something I will never find, should I run, should I rest, do I waste?
should I go, should I run with you? Living a dream, don't wanna be rescued. Living the world, don't wanna be found. Follow the stream that leads you to the stars. Don't spread the sound.
Je précise juste qu'on est bien sûr resté européen parce que Polo, c'est un Allemand qui maintenant habite à Toulouse. On retrouve Monsieur Lendecker et Amélie.
Non, Monsieur Lendecker, vos compatriotes aux États-Unis, quelle image ont-ils de l'Europe ou plus précisément de l'Union européenne? Est-ce qu'ils voient l'Union européenne comme un ensemble?
C'est difficile à percevoir. En partie parce que je pense que les médias donnent pas beaucoup d'informations aux États-Unis par rapport à l'Europe elle-même. Même pour les différents pays d'Europe, on peut les trouver. Je viens d'avoir un message email d'un ami aux États-Unis qui me dit on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. C'est bien que je leur ai écrit pour expliquer les élections, par exemple. Ils peuvent les chercher, mais tout le monde doit chercher s'ils ont le temps pour avoir des informations un peu plus complètes. Quand l'Europe part d'une seule voix, ça apparaît, et puis ça donne une image d'un ensemble, comme vous dites. Mais c'est quelque chose qui est peut-être encore mal compris. Ça, c'est mon impression.
Peut-être qu'on voit plus l'Union européenne par rapport aux États-Unis. Par exemple, ils ont dit c'est le conservateur qui a gagné, qui est pro États-Unis. Donc c'est plutôt en rapport avec les États-Unis qu'on le voit.
Oui, c'est vrai que les dernières élections va rapprocher au moins les administrations. Donc oui, on en parlera plus positivement sur ce plan-là.
Et est-ce que comment vous gérez l'anti-américanisme qui caractérise quand même pas mal d'Européens et plus particulièrement les Français?
Ben, j'écoute et c'est vrai que on écoute des idées qui sont parfois justifiées par rapport à l'attitude américaine dans le monde, mais il faut aussi se rappeler que les valeurs qu'on a aujourd'hui entre les deux entre l'Europe et les États-Unis sont plutôt les mêmes, hein, la démocratie et façon de trouver des solutions dans le monde. Espérons qu'ils vont travailler ensemble.
Et qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que les USA, enfin les États-Unis, ont créé l'Union européenne? C'est une chose qu'on entend souvent. Est-ce que vous pensez que c'est vrai?
Non, les États-Unis n'ont pas créé l'Europe. C'est quelque chose qui est en train de se créer en ce moment. Chaque peuple a son droit d'établir les institutions qui gèrent leur gouvernement. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'on a des valeurs communes qui en partie viennent des États-Unis et aussi des penseurs des Lumières, par exemple, de l'Europe. On a des valeurs de droits de l'homme, de justice, de paix, et puis on vit dans un monde où l'économie est très mélangée à travers la mondialisation. Il faut s'y prendre, il faut continuer à trouver ces valeurs dans les façons de gérer notre avenir.
La prochaine musique nous vient de Roumanie. C'est le groupe Roumanie Rota et la chanson s'appelle Cor Cor Saf Kalirati. Cette musique vous a plu, rendez-vous impérativement ce soir à 19h à la place Stan, parce qu'il y a une fête avec les fanfares roumaines organisée par le festival Passage. Maintenant, on passe à Cédric et monsieur Philippe Legros, spécialiste français de la défense.
Donc, je suis monsieur Philippe Gros, je travaille à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je suis à la FRS depuis un an et j'ai passé 9 ans auparavant au ministère de la Défense en France.
Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer ce qui se cache derrière ce cycle PESCD ?
La politique européenne de sécurité et de défense. Ce qui se cache en fait réellement derrière, c'est en fait la deuxième branche de l'évolution de l'Europe. La première étant celle de l'intégration, qui est principalement socio-économique. Et cette intégration socio-économique a amené les pays européens, les partenaires, à envisager des éléments de défense communs.
Alors on déplore souvent la mainmise des États-Unis sur le monde. Cette politique peut essayer en quelque sorte de faire entendre la voix de l'Europe dans le monde.
Naturellement, la PESD, pendant très longtemps, elle est restée lettre morte, tout simplement parce que l'OTAN occupait tout le champ. Ça s'est structuré à toute vitesse, mais en même temps, aller plus loin dans l'intégration requiert avant tout de construire l'Europe politiquement. Or, actuellement, c'est pas le cas. Il n'est pas certain qu'au bout du compte, on ait besoin de cette intégration. De la même manière que l'OTAN fonctionne parfaitement sur ce modèle sans avoir d'armée otanienne depuis des décennies. Et à s'y tenter que les pays membres de l'OTAN mandatent l'organisation pour contribuer à une intervention mandatée par les Nations Unies et autres, comme en Afghanistan, l'intervention est parfaitement possible. Tout le problème est, si on a besoin d'une politique européenne de sécurité et de défense, c'est parce qu'effectivement, nous avons des convergences tout simplement en termes de besoins de sécurité intérieure et qui nécessitent de pouvoir se coordonner et avancer entre nous sur ces plans-là, sans pour autant avoir une structure dans laquelle il y a également les États-Unis qui occupent une part importante de la décision.
Est-ce que vous savez comment les États-Unis voient cette mise en place d'une sorte d'armée européenne qui pourrait leur faire face en quelque sorte?
Déjà, quand on dit les États-Unis, il n'y a jamais les États-Unis voient les choses d'une seule manière. Par exemple, Brzezinski, qui est avec le grand échiquier, qui lui était extrêmement favorable pour des raisons d'intérêt américain, un renforcement de la puissance européenne. Inversement, vous avez de multiples acteurs qui voient que le risque de l'Union européenne amène un affaiblissement de l'OTAN, etc. Et puis actuellement, chez les Américains, il y a une phase de désillusion par rapport à ce que la PESD est en mesure d'apporter ou pas.
On a vu avec la guerre en Irak en 2003, par exemple, beaucoup ont été déçus que l'Europe n'arrive pas davantage à faire entendre sa voix.
L'Europe, au travers de tous les efforts, promet beaucoup, mais au bout du compte, fait peu. Les moyens militaires engagés sont faibles. Ça, le problème de l'Irak, typiquement, c'est que on arrive à avoir une force de gendarmerie, mais l'affaire de l'Irak montre que, au-delà de ses capacités, il n'y a pas encore de politique étrangère commune. Un autre symptôme de cette affaire, c'est les débats qui existent sur l'entrée ou pas de la Turquie. Le fait que les États européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur leur périmètre, leurs frontières, et ça prouve bien qu'il n'y a pas de vision encore commune de ce qu'est l'Europe. Et donc, de ce fait-là, il n'y a pas de politique étrangère et de sécurité réelle, mais il y a quand même les prémices, ce sur quoi on peut s'entendre, on peut avancer, ce qui peut paraître assez paradoxal, mais c'est toute la spécificité du modèle européen.
Et on continue avec Amélie et Monsieur Lindecker.
Monsieur Lindecker, quel a été votre ressenti lorsque la France et l'Allemagne ont refusé de participer à la guerre en Irak?
C'est simple, je pense que c'est leur choix absolu pour chacun des pays d'avoir refusé ou rejoindre aux efforts des Américains en Irak. J'étais surpris au début par la France et l'Allemagne, personnellement, hein, je parle personnellement, mais... À la suite, on peut comprendre leur refus, je pense.
Et quelle est votre vision de l'avenir des relations Europe-USA? Pensez-vous plutôt que ça se passera par des relations unilatérales entre les États-Unis et les différents pays européens, ou plutôt avec l'Union européenne en tant que telle?
J'ai le sentiment que dans le court terme, ça sera des relations bilatérales qui seront favorisées, à mon avis. Mais le moment où l'Europe a toutes les institutions en place et le moment que peut-être la Constitution soit vraiment votée, peut-être par la France bientôt, une armée européenne. J'ai vu un jeune homme dans le train l'autre jour, 19 ans, qui fait partie de ce groupe régiment franco-allemand, qui va en Afghanistan. C'est un début de quelque chose d'important, je pense, pour l'Europe. Je pense que beaucoup d'Américains, beaucoup de politiques, d'hommes politiques, pensent qu'il faut une Europe forte. Il faut aussi contrebalancer, je pense, dans l'avenir, l'essor de la Chine. Donc, on a un intérêt d'avoir des relations étroites. Finalement, je pense qu'il faut avoir une sagesse dans tout ce qui est les négociations entre les États-Unis et l'Europe. Pour la sagesse, il faut un savoir, une expertise. Il faut savoir se remettre des crises et savoir maîtriser ses propres émotions. Et avec ça, j'espère qu'on aura des grands succès, y compris faire connaître la musique tzigane, comme vous l'avez fait tout à l'heure.
Ok. Très bien. Je pense que c'est une très belle fin que, au-delà des French Fries, on a quand même des intérêts convergents. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Je remercie Monsieur Lindecker d'être venu et aussi merci Amélie. Donc rendez-vous ce soir à 19h sur la place Stan où le Festival des Passages organise une fête avec des fanfares roumaines. Vous pouvez nous retrouver demain à la même heure à 14h pour un regard africain sur l'Union Européenne avec des étudiants du Niger et une interview de Monsieur Zigede, ancien Premier ministre de la République centrafricaine. Donc je vous dis au revoir, à demain et amusez-vous bien ce soir.
parce qu'il est urgent de s'apercevoir que la diversité culturelle est une chance, un atout dans nos sociétés, Jazzmosphère vous invite à découvrir les musiques qui en sont les garantes. Jazz, culture urbaine, musique du monde, déclinaison électronique. Au programme, des invités, des dossiers, de l'actualité et surtout de la créativité. Jazzmosphère, c'est tous les mercredis de 19h à 20h avec Vincent.